Vous écoutez
RMC.
Mais c'est pas possible, oh. Le contrôle du ballon quand ça fait la quatrième qu'il arrive avant dans Jérôme et Lukaku, il n'y avait plus de gardien.
Très grosse déception, on attendait la Belgique beaucoup plus loin que ça.
Contraint à la victoire face aux Croates, les Diables Rouges ont beaucoup tenté mais n'ont pas réussi à marquer.
C'est terrible, Lukaku qui reste les mains sur les genoux, parce que si la Belgique ne marque pas, malheureusement, c'est sur les épaules de Romelu Lukaku.
C'est terminé à Albaït et tous les visages sont défaits. On a coutume de commenter la joie des uns qui contraste avec le désespoir des autres. 22 dans la douleur d'une élimination, costariciens et allemands.
Allemagne ou Belgique, quel est le plus gros fiasco de cette phase de poule? Allemagne ou Belgique, appelez-nous au 32-16 pour y participer. Jérôme.
Oui. Écoute, le plus gros fiasco, c'est compliqué parce qu'on avait mis assez haut ces deux équipes. Hein, logique, c'est logique parce qu'elles nous ont montré sur les dernières années des choses intéressantes. Même si l'Allemagne, depuis deux compétitions, bah, ça va très mal. Ça reste des pays du football quand même. Et que la génération dorée, entre autres, de la Belgique, devait se rattraper plus ou moins de ce seum en 2018. Et on annonçait... en effet, pour certains, la fin de leur carrière internationale après cette compétition. Et là, là, c'est la Bérésina. Et c'est plus la Bérésina, je pense, moi, pour la Belgique, parce que il y a eu des choses qui sont sorties. Le groupe ne vit pas bien. Des règlements de compte via la presse, des règlements de compte sur le terrain dans la compétition, même avant qu'ils soient éliminés. C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Rappelle-toi, en 2010, nous en France, on a failli. Je donne pas d'excuses à l'image qu'on a laissée et qu'on a donnée au monde entier, mais on en a fait des caisses et des caisses et des caisses, et ce qui était logique. Mais j'ai l'impression que en Belgique, on n'en a pas fait tant que ça. Mais c'est dramatique ce qu'ils ont fait. Des joueurs qui ne se parlent pas, qui se disent même pas bonjour. Et ça, ça dure depuis un certain temps. Des problèmes physiques pour certains, des vieux qui sont pas acceptés par les plus jeunes, ou des gens de la même génération qui reprochent en effet qu'il y ait trop de lenteur, trop de ceci, trop de cela. Ils ont failli se mettre sur la tronche sur le terrain. T'imagines des gestes, on a vu des gestes repoussés quand ils étaient dans leur camp de base. Pareil, des altercations, alors qu'ils nous ont caché ça, masqué ça, alors qu'on sait tous que c'est la vérité. Et ça se traduit sur le terrain avec une équipe qui est à mort. Alors oui, ça s'est joué à un poteau en fin de match de Lukaku qui aurait pu donner la qualif. Mais pour faire quoi, en fait? Pour oublier tout ça? Ben non, en fait, ils ont failli, les joueurs, et puis surtout le sélectionneur, parce que le sélectionneur n'était pas au niveau de cette sélection belge. Et ça a été masqué un petit peu, comme il y a quelques années, par Raymond Domenech et une finale de Coupe du Monde. Malheureusement, je pense qu'il est en retard sur beaucoup de choses, Monsieur Martinez, et que il n'était pas apte à entraîner une équipe de cette qualité-là, ou du moins une équipe qui doit viser la gagne dans une compétition. Donc moi, je te dirais les Belges, parce que les Allemands, c'est un choc de génération, et que en effet, le choc de génération donne, et je l'ai vécu, et c'est comme ça que j'ai arrêté le football. Alors pas au niveau international, mais au niveau national. Mais n'empêche que quand il y a un décalage qui est trop important entre des gamins de 17, 18, 19 ans et des vieux de 35, 36, 37 ans ou qui ont tout gagné déjà. Bah, c'est difficile de créer une alchimie, une ambiance dans un groupe. Et là, Hansi Flick, lui, il a fauté là-dessus. Ah. Mais par contre, ça veut pas dire que l'Allemagne, qui sort toujours des grands joueurs, et il y en a dans cette sélection-là, ne sera pas au rendez-vous dans le prochain Euro, dans un an et demi. Moi, j'y crois.
Voilà la vie. Donc, la Belgique est le plus gros fiasco, un plus gros fiasco que la Nationalmannschaft, selon Jérôme. Captain, ton avis?
Ouais, c'est compliqué dans la défaite quand tout le monde fait ses valises et quand tout le monde rentre à la maison. Je pense que on est tous à peu près au même point. Bon, je dirais que la différence, c'est que bien qu'il y ait eu des tensions, et Dieu sait s'il y en a eu du côté de la Belgique, au moins ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde il y a 4 ans. Au moins, ils ont été premiers du classement FIFA. Et puis, le réservoir belge...
Excuse-moi de te couper, Jean-Michel, mais les Allemands, ils ont été champions du monde, pour certains, en 2014. Hein.
Oui, mais ça fait deux poules finales, deux phases finales de Coupe du Monde qui passent à la trappe avec un autre réservoir de joueurs que ne que n'a la Belgique. Et puis je sais pas, je pense que c'est du même niveau, les uns parce que l'ambiance est délétère et parce que je crois véritablement que Martinez n'a rien senti de ce groupe là rien. Ouais. Je pense que quand on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, au moins on change une équipe qui perd, et cette équipe depuis 2018 commençait à perdre et il ne changeait pas. Comment imaginer qu'un joueur qui ne joue plus depuis deux ans et demi,
ouais.
soit capitaine de qui ne joue plus, d'une sélection qui va disputer la phase finale. Mais monsieur Martinez, enfin, respectez ceux qui s'entraînent, respectez ceux qui jouent, respectez ceux qui transpirent un peu sur le terrain. Eden Hazard, ça fait deux ans et demi qu'il ne transpire plus. Il n'y a plus une goutte de sueur. Je pense que depuis deux ans et demi, il met le même équipement pour s'entraîner et pour jouer, puisqu'il ne s'entraîne pas, il ne joue pas. Ouais, donc les erreurs sont énormes du côté de Flick. On ne peut pas dire non plus que ce soit un total triomphe. Il a quand même des joueurs. Il a quand même mieux pour faire que ce qu'il a fait là. Ce n'est pas possible.
Et il a quand même mieux que joueurs. Belgique en termes de joueurs, Jean-Michel.
Comment ?
Il a mieux que la Belgique, Hansi Flick,
en termes de l'effectif. C'est bien ce que je t'ai dit.
Il est peut-être plus allemand que belge.
Ouais, c'est du pareil au même. Mais les Belges, je dirais que le fiasco des Belges, c'est plutôt en défaveur du coach. Je pense que Martinez est totalement responsable.
D'ailleurs,
du côté des Allemands, je pense que ce sont plutôt les joueurs qui, à un moment ou un autre, n'ont pas réussi à se rendre compte qu'ils repartaient encore dans le mur après avoir télescopé un obstacle en 2018. C'est pas possible.
Manu, ton avis dans un instant, quel est le plus gros fiasco entre l'Allemagne et la Belgique? On fait une pause, Manu, on revient dans un instant avec toi, avec Captain Larquet dans Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde, vous écoutez RMC. 19h12 à Paris, 21h12 à Doha, au Qatar, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin, Jérôme Rotten.
19h15 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. Bien sûr, on continue nos débats sur les fiascos de l'équipe de Belgique et l'équipe d'Allemagne. On se pose la question, en effet, savoir quel est le plus gros fiasco. Alors Jean-Michel était un petit peu de mon avis, Jean-Michel Larquet bien sûr, Nicolas Jamin aussi est là, et bah, je vais te poser la question, on est avec Manu Amoros aussi. Manu, qu'est-ce que t'en penses?
Moi je suis d'accord avec vous, je pense que l'équipe de Belgique a montré ses limites pendant ce mondial-là, et ça fait pas que d'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 4 ans, 5 ans que ça dure. Je pense que l'entraîneur ou le sélectionneur n'a pas renouvelé son effectif en intégrant au fur et à mesure avec des joueurs d'expérience, des joueurs un peu plus jeunes et des joueurs de qualité pour qu'ils puissent s'imprégner de cette sélection belge et qu'il y ait une continuité après éventuellement dans les résultats et dans la façon de faire dans cette équipe belge. C'est vrai que ça n'a pas arrangé tous les problèmes qu'ils ont créés autour d'eux, parce que c'est eux-mêmes qui ont créé tous ces problèmes-là, et ça n'a pas arrangé et ça n'a pas fait du bien à toute l'équipe quand on entend qu'ils se sont battus, qu'ils se sont disputés, qu'ils jouaient pas ensemble, parce que un match de football, c'est quand même une équipe, c'est un collectif, et si le collectif n'est pas bon parce qu'il y a des problèmes extérieurs, tu peux pas avancer dans le football, c'est pas possible. On a besoin de tout le monde.
Dans cette équipe de Belgique, c'était même pas une guerre de clans entre les Wallons et les Flamands et les Bruxellois. Hein. C'était une guerre d'individualité. Hein. C'était De Bruyne contre Courtois. Ça date. Ça date, mais c'est toujours là. C'était les frères Hazard contre Vertonghen.
T'as raison, c'est problématique.
C'était pas des clans. C'était toutes les individualités. Il y avait aucun atome crochu entre les individualités.
L'entraîneur, il le sait. Pourquoi il prend, ou alors il fait pas, je sais pas,
parce qu'il a pas un réservoir non plus.
Il a quand même le pouvoir de sélectionner les joueurs. Donc quelque part, il a le pouvoir de dire, toi je te prends, mais si je te prends, il faut rentrer dans le moule de l'équipe de Belgique. On défend un pays dans une Coupe du Monde.
En fait, le problème, Manu et Jean-Michel, tu remets ça sur la table, l'altercation Courtois De Bruyne il y a quelques
années.
altercation.
On va rappeler l'histoire, parce que même on en parlait quand même.
Mais qui se parlent pas, ils se disent pas bonjour et tout ça.
Thibaut Courtois est aujourd'hui avec l'ex-copine de De Bruyne, alors que De Bruyne était encore.
Il n'y est plus maintenant.
Il n'y est plus.
Ouais, ouais.
En tout cas, quand De Bruyne avait une copine.
Exactement. Mais donc c'est un problème privé. C'est un problème privé. Mais je suis désolé. Quand t'as un sélectionneur comme Martinez. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais ils sont allés quand même en demi-finale, la Coupe du Monde, et ils ont fait abstraction. Ok, oui, mais t'es rattrapé au bout d'un moment par ce que tu sèmes. Et malheureusement, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et Jean-Michel, tu le disais, déjà rien que le fait de donner le brassard de capitaine à un joueur qui joue plus depuis 2 ans, qui est plus au niveau. Alors, il s'appelle Eden Hazard, et moi j'ai beaucoup de respect pour Eden, parce que c'est quelqu'un d'adorable. Mais il faut reconnaître, et que ça a été un joueur incroyable, il faut reconnaître qu'il est plus du tout au niveau aujourd'hui.
C'est l'un des moins mauvais, hein, sur
Oui, mais d'accord, c'est moins mauvais, sauf que.
Non,
t'es un leader comme ça avec le brassard de capitaine, c'est pas juste mettre un petit bandeau autour du bras, c'est autre chose. Lui, c'est le leader technique. Tous les ballons doivent passer par lui, et c'était le cas avant. C'est plus le cas aujourd'hui. Dans le vestiaire, c'est aussi le capitaine qui est un leader de vestiaire.
C'est pas un exemple.
Donc quand t'es pas bon, et il le sait très bien, et que t'es pas au niveau, il peut pas remettre d'équerre certains qui se prennent pour d'autres. Et que, encore une fois, tu t'en remets au sélectionneur. Le sélectionneur, comment, quand il prend sa fonction, il y a quelques années, il peut accepter que même si c'est deux grands joueurs, que deux grands joueurs ne se parlent pas et ne se disent pas bonjour.
Tu aurais fait un choix entre De Bruyne et Courtois.
Moi, je vais te dire, j'ai connu cette situation-là. Et moi, j'étais pas De Bruyne. Mais j'avais eu une altercation qui avait duré il y a quelques années avec Fabien Barthez. D'accord? Et avec Fabien Barthez, en effet, on se disait plus bonjour. Mais c'est problématique pour un groupe, quel que soit le joueur à qui tu fais ça. Moi, j'étais un remplaçant en équipe de France, j'étais pas un titulaire. Mais c'est problématique pour l'ambiance, pour tout ce que tu dois mettre en place. Le sélectionneur Raymond Domenech, le grand sélectionneur Raymond Domenech, comme le grand sélectionneur Martinez, ont minimisé ces choses-là. Mais tu peux pas les minimiser parce qu'au bout d'un moment, tu perds un joueur, voire les deux, et tu perds l'entourage de ces joueurs-là. Et ben ça, c'est problématique. Et je pense qu'en effet, il est rattrapé par la patrouille. Alors, il a eu raison de démissionner parce que de toute façon, il aurait été viré. Mais il a jamais été. Ce mec-là n'a jamais été au niveau de la Belgique.
Jérôme, il est arrivé en 2016, Robert Thomas.
Ouais, moi j'ai vécu la même situation avec la Coupe du Monde en 82, l'affaire Larios-Platini. Il y a eu deux joueurs très intelligents qui ont su séparer les deux affaires, c'est-à-dire la préparation et la Coupe du Monde et les affaires personnelles. Ça s'est pas ressenti non plus dans le groupe. Même s'il se disait pas bonjour, s'il se parlait pas, on l'a pas ressenti dans le groupe. Je suis désolé.
Mais Larios, il a passé la Coupe du Monde au casino de Valladolid.
Il a fait quand même le premier match.
Je fais les grosses bises à Jean-François, puisqu'il sort du même club que moi, et puis qu'il est pas en grande forme, mais il n'était plus dans le groupe. Larios n'était plus dans le groupe.
On peut revenir en 2022. On peut dire quoi qu'on veut. Michel Hidalgo, il n'a pas été remplacé par Platini en disant ne fais pas jouer Larios au premier match.
Manu, c'était il y a 60 ans.
Mais tu prends l'exemple de que l'autre lui a piqué la femme à l'autre. Je te dis simplement l'histoire qui s'est passée et qu'on l'a bien vécu.
Manu, je t'envoie le numéro de Jean-Michel, vous appelez après l'émission. Mais là, on veut revenir sur le débat.
Là, c'est ORTF sans flamme. Dans Rotten sans flamme en 2022.
Excusez-nous d'avoir vécu un peu, nous.
Ouais. Pierre-Emmanuel est avec nous.
Il n'est qu'un héritier.
Pierre-Emmanuel est avec nous au 32-16. Salut, Pierre-Emmanuel.
Salut la team.
Salut Pierre-Emmanuel, ça va?
Rotten sans flamme intégrale Coupe du Monde.
Ça va Pierre-Emmanuel, tu vis bien la compétition?
Pierre-Emmanuel, c'est ton prénom de roi.
Je rate pas un match.
Eh ben donc tant mieux, écoute, t'es pas dans le boycott et t'as bien raison parce qu'on se régale. C'est une belle Coupe du Monde. Ouais. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de ces fiascos entre la Belgique et l'Allemagne? Est-ce que t'en mets un plus haut que l'autre?
Sincèrement, bon, la Belgique, c'est quand même un fiasco. Je vous écoutais en parler. C'est effectivement après leur Coupe du Monde 2018. C'est vrai que c'est pas. On s'attendait pas à ça. Mais pour moi, le plus gros fiasco reste quand même l'Allemagne. Sincèrement,
ah,
même
je
si.
Je suis d'accord avec toi. Ah bon?
Même si, au vu de leur dernier Euro, et ils se font sortir en huitième par l'Angleterre, y a pas photo. La Coupe du Monde 2018, ils se font sortir au premier tour, y a pas photo. Mais là, malgré tout, dans un groupe quand même composé du Japon et du Costa Rica, on parle pas d'écuries extraordinaires.
Oui, c'est pas faux. C'est pas
à part
faux.
L'Espagne, ils doivent, pour moi, se qualifier et au moins finir deuxième.
Après, et Pierre-Emmanuel, je sais pas si t'as entendu notre débat sur et le fait d'entrer l'accusé sur l'Espagne, mais ils se sont bien fait aussi avoir par rapport aux Espagnols. Hein. Alors après, ils avaient pas à perdre le premier match contre le Japon.
C'est ça, ils peuvent s'en prendre quand même.
Les Espagnols, tu peux leur en vouloir, mais si tu gagnes contre le Japon, tu te poses pas la question, quoi.
Mais je rejoins, mais après c'est pour ça que je suis surpris que tu dises l'Allemagne au-dessus de la Belgique, et c'est ton droit et tu as raison, ouais. mais avant la compétition, tu l'as dit, les deux autres compétitions, l'Allemagne restait un petit peu sur des un petit peu beaucoup même sur des échecs, et il n'y avait pas trop de choses qui avaient changé. On avait toujours cette nouvelle génération avec cette ancienne génération et la difficulté d'avoir cette alchimie. Donc tu t'attendais à quoi, toi, en gros?
Ben justement, moi je m'attends plutôt, tu sors de deux compétitions internationales où t'as pas été bon. Enfin, je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Une équipe, l'Allemagne qui sort deux fois d'affilée.
Jamais arrivé, je pense.
Et je rajoute également Pierre-Emmanuel, le huitième de finale à l'Euro 2020 en 2021 également.
Oui,
on est sur trois compétitions ratées pour la Nationalmannschaft.
Le huitième de finale derrière contre l'Angleterre. Donc, effectivement, moi je m'attendais plus à un rebond, à une autre image, juste de la fierté peut-être même de la part des Allemands, parce qu'en plus c'est vrai que c'est plus ou moins le même groupe là avec la génération. Donc je m'attendais à mieux de leur part, je m'attendais à plus d'implication et une autre image, malheureusement.
En tout cas, Hansi Flick a été conforté par sa direction. Il va rester le sélectionneur de la Nationalmannschaft. On estimait qu'il n'était pas le problème. En revanche, l'avenir de Thomas Müller, notamment.
Si, c'était le problème dans la construction du groupe. Et après, il a le droit d'apprendre de ses erreurs.
Hein. Tout à fait. Merci Pierre-Emmanuel d'être venu dans.
Merci Pierre-Emmanuel.
Rotten sans flamme après la Coupe du Monde. Tu reviens quand tu veux auprès de Jérôme. Captain Larquet est toujours avec nous. Manu Amoros aussi. Dans un instant, débat équipe de France, débat défense de l'équipe de France. Konaté doit-il prendre la place de Raphaël Varane? Appelez-nous 32-16 également. Le débat sera chaud.
Là, c'est Nico.
Et je vous assure qu'on ne parlera pas de la Coupe du Monde 66 avec Captain et Emmanuel Moros.
Non.
On reste en 2023.
Celle de 58, on parlera.
Celle de 66, on en parlera quand on fera un débat sur l'Angleterre.
Exactement, puisque c'est l'Angleterre qui l'avait emporté. Allez, à tout de suite dans Rotten Sans Flamme.
Intégrale
Coupe du Monde. Quel mépris de l'ancien. À tout de suite sur.
Retrouvez Rotten Sans Flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.